VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter la voix de l'Amérique. Eric Manilakidza en direct du studio 9 à Washington. Ravi d'être avec vous dans cette deuxième édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes lundi 8 mai 2017. D'abord le sommaire. En Côte d'Ivoire, des ex-combattants démobilisés des forces nouvelles ont paralysé Boaké. Ils réclament 18 millions de francs CFA par personne.
Ceux qui ont quitté l'armée se sont un peu frustrés de voir que les anciens avec qui ils ont combattu ont eu des primes de plus de 5 millions.
Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au Burkina Faso, les avocats de la défense ont quitté le procès du dernier gouvernement Compaoré. Les Algériens se réjouissent de l'élection en France d'Emmanuel Macron.
La presse algérienne a été très positive en apprenant la nouvelle de l'élection d'Emmanuel Macron.
Nous retrouverons à Alger Brahim Takenroub. Restez branchés sur votre fréquence et merci de votre fidélité. Je vous le disais dans les titres, l'entrée sud de la ville de Boaké était fermée tôt ce matin par un groupe d'ex-combattants démobilisés issus de l'ex-rébellion armée de Côte d'Ivoire. Après plusieurs heures de manifestation, le corridor a été ouvert en début d'après-midi à la circulation à la suite d'un début de négociation entre les autorités préfectorales et des ex-combattants. Les détails avec notre correspondante sur place, Narita Namasté.
Les négociations entre les ex-combattants et les autorités du corps préfectoral de Boaké ont été suspendues à la mi-journée après plusieurs heures de discussion. Selon nos informations, les discussions devraient reprendre dans les jours qui viennent. Plusieurs centaines d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué le corridor sud de Boaké dans le centre du pays. Ces ex-combattants réclament des paiements de primes aux Comores de 12 millions de francs CFA et des aérés de primes de grade de caporal de 2007 à 2011. Il faut rappeler que ces ex-combattants ne font plus partie de l'effectif des forces armées de Côte d'Ivoire. Des négociations entre les autorités préfectorales ont débuté peu après 11h GMT à Boaké, qui est la deuxième grande ville du pays. Selon nos informations, les discussions ont été suspendues et devraient reprendre dans les jours à venir. Il faut aussi noter que le mouvement avait gagné la veto d'Ainé dans le nord-ouest du pays. En janvier, le pays a été secoué par une vague de contestations militaires et civiles où le gouvernement ivoirien avait promis reverser la somme de 12 millions de francs CFA à quelque 8 500 mutins issus de l'ex-rébellion ivoirienne, une mutinerie qui avait enregistré au moins 2 morts dans ce pays. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Une nouvelle loi sur la presse en Côte d'Ivoire sur fond de contestation. Elle prévoit un emprisonnement d'un à cinq ans pour incitation à la xénophobie, à la rébellion ou porte atteinte à l'intégrité du territoire national par voie de presse. La condamnation de l'auteur de l'infraction peut en outre entraîner la suspension du journal de 3 à 24 parutions pour les quotidiens, 2 à 8 parutions hebdomadaires, 1 à 3 parutions pour les mensuels. Une dizaine d'organisations professionnelles, dont l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, ont dénoncé une loi liberticide plus répressive et totalement aux antipodes de la modernité. Majoritairement acquis au président Ouattara, l'Assemblée nationale ivoirienne devrait la voter prochainement. En Guinée, 2 blessés dans la collision survenue samedi entre un camion et un minibus au nord de Conakry sont décédés. Une source hospitalière porte le bilan à 23 morts. Cet accident est survenu près de Dumbreka, à environ 50 km de la capitale. Le minibus bondé a été écrasé par le camion dont la benne était remplie de sable au moment de la catastrophe. Le président nigérien Muhammadu Buhari est parti hier soir à Londres pour de nouveaux examens médicaux. Il a quitté Abuja quelques instants après avoir reçu 82 lycéens de Chibok libérés par Boko Haram. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Le procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris ce matin à Ouagadougou devant la haute cour. La défense a soulevé la compétence du tribunal. Bagasikoura pour les détails.
La quinzaine d'avocats défendant les 32 ministres du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré ont quitté le tribunal ce lundi. Ils sont jugés devant la haute cour de justice pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les avocats rejettent la haute cour, arguant que ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel, alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Créée en 1995 sous le régime de Blaise Compaoré, dont elle s'apprête à juger le dernier gouvernement, la Haute Cour de justice est restée inactive jusque-là. Elle est la seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs spectateurs ont applaudi les avocats alors qu'ils quittaient la salle. Le président a suspendu l'audience qui devrait reprendre le 15 mai prochain.
RDC, deux soldats congolais ont été tués aujourd'hui dans une attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Le major Njike Kaikwa, un porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, a indiqué qu'ils ont ciblé une position militaire à Kichanga, à l'est du pays. Un responsable de la société civile locale a parlé également d'une femme tuée. Toujours en RDC, le bureau humanitaire de l'ONU a indiqué que 100 000 personnes ont fui leur foyer la semaine dernière dans la région des Kasaï, confrontée à une crise d'une ampleur massive. L'ex-otage français libéré samedi au Soudan après son enlèvement en mars au Tchad est arrivé aujourd'hui en N'Djamena. Les autorités tchadiennes affirmaient que ses quatre ravisseurs ont été arrêtés. La guerre civile a forcé plus d'un million d'enfants à fuir le Soudan du Sud et en a déraciné 1,4 million d'autres à l'intérieur du pays. Selon des agences de l'ONU, ils ont fui leur pays pour gagner des camps de réfugiés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda voisins depuis le début du conflit fin 2013. En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées, une dizaine blessées cet après-midi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Elle a explosé à proximité immédiate d'un café italien situé dans la rue Makka al-Mukarrama, une artère très fréquentée du centre de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel. Et la justice sud-africaine a libéré sous caution aujourd'hui un homme accusé de planifier deux meurtres. Il a voulu notamment assassiner le président Jacob Zuma et des proches du pouvoir soupçonnés d'avoir bénéficié des scandales de corruption qui secouent le pays depuis plusieurs mois. Selon la police, il avait fondé un mouvement et cherché à réunir près de 10 millions d'euros pour financer ses crimes. En Égypte, le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi, a écopé aujourd'hui d'une nouvelle peine de prison à vie pour avoir planifié des attaques contre l'État. La cour a également acquitté 21 personnes dans cette affaire, dont Jihad Haddad, un ancien porte-parole des frères musulmans. Les condamnés peuvent encore interjeter appel. Et le ministre de l'Intérieur égyptien a annoncé aujourd'hui avoir tué 8 terroristes appartenant à des groupuscules planifiant des attaques contre des institutions publiques. Les forces des autorités libyennes parallèles ont annoncé aujourd'hui une offensive contre les derniers bastions des djihadistes à Benghazi, la deuxième ville du pays. Ces forces sont sous le commandement du maréchal controversé Khalifa Haftar. Et deux naufrages en Méditerranée au large de la Libye, 11 migrants sont morts et près de 200 autres sont portés disparus. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés de l'Organisation internationale pour les migrations, quelques 50 survivants ont été secourus par un porte-conteneur danois. Les autorités marocaines et espagnoles ont démantelé une cellule terroriste composée de 3 partisans de l'Organisation État islamique. Le ministère marocain de l'Intérieur a indiqué que cette cellule était en contact étroit avec des combattants dans les bastions djihadistes en Irak et en Syrie et recrutait également envoyer des volontaires combattre dans les rangs d'Oléi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le centriste pro-européen Emmanuel Macron a remporté une large victoire hier à la présidentielle avec 66,10% des voix. La passation de pouvoir avec François Hollande aura lieu dimanche 14 mai.
Pour gouverner, le président Emmanuel Macron, qui va prêter serment le 14 de ce mois, aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il a fondé il y a un peu plus d'un an le mouvement En Marche, qui se veut différent des partis politiques traditionnels. Des personnalités de gauche et de droite comptent se présenter aux législatives des 11 et 18 juin sous l'étiquette majorité présidentielle, une situation inédite car des personnalités aux sensibilités parfois disparates vont devoir cohabiter. Dans les prochains jours, Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du futur gouvernement avant de chercher à obtenir une majorité aux législatives du mois prochain.
Anastasie Tudiech, dossier syrien, le secrétaire à la défense américain Jim Mattis a dit aujourd'hui que Washington examine attentivement une proposition de la Russie pour établir des zones de désescalade en Syrie afin de savoir si elle est viable. Le gouvernement afghan et l'armée américaine ont confirmé le 7 mai au soir la mort le 27 avril d'Abdul Hassib, chef de la branche locale de Daesh, lors d'une opération conjointe dans l'est de l'Afghanistan. Salwa Jafari.
Mohamed Ramdanish, porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, l'a confirmé. Abdul Hassib, chef de la branche locale du groupe djihadiste, a trouvé la mort lors d'une opération conjointe dans le Nangar, dans l'est du pays.
Beaucoup de membres du groupe de l'État islamique ont été tués par le commandement de la coalition et l'armée nationale. Abdul Hassib, le chef de ce groupe terroriste, était également parmi eux.
Il avait pris la direction du groupe en juillet 2016 à la mort de son prédécesseur, Hafiz Saïd, tué dans un bombardement américain. Le Pentagone a affirmé que plusieurs autres responsables de haut rang de Daesh ont également été tués, ainsi que 35 combattants. Deux soldats américains ont également trouvé la mort dans l'opération. L'armée américaine affirme que plus de 500 combattants ont été tués depuis début mars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Muniteco signée Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international vient d'approuver un programme de près de 241 millions de dollars au Togo afin d'aider le pays à redresser ses finances publiques. Un premier prêt de 34,5 millions a été immédiatement débloqué en faveur des autorités de Lomé. Le versement des autres tranches de ce programme, étalé sur 3 ans, sera conditionné à l'application d'une série de réformes économiques. Plusieurs pays d'Afrique francophone ont récemment fait appel au FMI, notamment pour faire face à l'impact de la chute des cours des matières premières sur fond de rumeurs de dévaluation du franc CFA. Le Parlement égyptien a approuvé une loi sur les investissements qui prévoit notamment de faciliter les démarches des entreprises au moment où les autorités veulent attirer les investisseurs étrangers pour relancer une économie en crise. L'Égypte a connu une forte chute des revenus du tourisme. Le texte prévoit des exemptions fiscales pouvant aller jusqu'à 50% pour les investissements dans les régions les plus défavorisées. Au Mozambique, les habitants de Palma, un village de pêcheurs, réclament que le projet gazier du fleuve Rovuma démarre le plus tôt en 2010. Des réserves estimées à 5000 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été découvertes dans cette partie nord du pays, les plus riches découvertes sur la planète depuis longtemps, pouvant hisser l'un des pays les plus pauvres du continent africain au rang de troisième producteur mondial de gaz naturel liquéfié, annoncé pour 2016. Les exportations ont été reportées à 2022 ou 2023 en raison de la chute des cours des hydrocarbures.
Nous enchaînons directement avec les sports. Nicolas Pinon ce soir. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous.
Alors, premier comité exécutif de la Confédération africaine de football de l'ère Ahmad.
Le nouveau président malgache de la CAF est à Bahreïn avec les dirigeants de la Confédération africaine au menu des discussions qui se sont ouvertes ce lundi. Comment transformer la CAF pour les 4 prochaines années? La CAF va aussi se pencher sur la plainte déposée en Égypte contre le contrat des droits TV et marketing qui avait été passé avec le groupe Lagardère, on s'en souvient, sous la présidence d'Issa Hayatou. Affaire à suivre.
Et jeudi, le congrès de la FIFA se réunit toujours à Bahreïn.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme que les finances de l'instance internationale de football sont extrêmement solides et ce, malgré des pertes de 369 millions de dollars. Déclaration faite au cours d'un discours prononcé devant le congrès de la Confédération asiatique de football, toujours à Bahreïn. La FIFA avait indiqué auparavant que ses résultats pourraient se dégrader au cours de l'année, mais rebondir en 2018 pour atteindre un bénéfice d'un milliard de dollars, grâce notamment aux droits télé de la prochaine Coupe du Monde en Russie.
Et demain, c'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mission impossible pour Monaco ?
La Juventus qui ne craque jamais contre les clubs français, la Juventus qui ne prend pas de but et qui n'a plus perdu à Turin depuis 20 mois. Seul un colossal exploit. Demain, enverrait Monaco en finale de la Ligue des Champions. Ça va être dur, le coup d'envoi 18h45, temps universel. On se souvient qu'à l'aller, les Italiens l'avaient emporté 2-0 au Stade Louis II.
Parlons toujours au football, mais d'eau sable, on change de terrain avec le mondial de beach soccer remporté par le Brésil.
Exactement, et les Brésiliens ont été sans pitié face à Tahiti. Victoire 6-0, le Brésil qui remporte ainsi sa 5e Coupe du Monde de la discipline.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, une centaine d'anciens rebelles démobilisés ont bloqué ce matin l'accès sud de Bouaké. Après plusieurs mutineries, le gouvernement avait cédé et satisfait en partie les revendications de primes de quelques 8500 anciens rebelles intégrés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Les démobilisés, à leur tour, réclament une part du gâteau. Solange Nyamudisa a joint le docteur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Depuis la fin de la guerre, il y a plusieurs projets de DDR, de mobilisation, désarmement et réinsertion qui ont été mis en place. Certains qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont eu. Et deuxième chose, par rapport aux revendications des mutins du début de l'année, ceux qui ont quitté l'armée se sont un peu frustrés de voir que les anciens avec qui ils ont combattu ont eu des primes de près de plus de 5 millions. En plus, sont encore payés tous les mois par l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'eux qui ont combattu comme eux dans la première partie de la guerre ne sont pas pris en considération. Je pense que ces éléments de frustration peuvent expliquer en partie le fait que les démobilisés se rebellent aujourd'hui.
Comment expliquer que ces démobilisés sans armes puissent bloquer l'entrée du Bouaké ?
Il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville. Mais maintenant, est-ce que derrière, ils n'ont pas des armes cachées ? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils n'ont pas des soutiens même au sein des soldats qui sont à Bouaké ? C'est d'autres questions qu'il faut se poser. Sinon, aujourd'hui, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas d'armes dans la ville.
Que peut faire le gouvernement ?
Je pense que le gouvernement doit montrer de la fermeté maintenant. La Côte d'Ivoire elle-même, par la chute des cours du cacao, qui sont passés de 1 000 francs CFA le cours, le prix du kilo, donc un peu plus de 2 $ à 700 francs CFA, donc un peu plus de 1,5 $. La Côte d'Ivoire elle-même n'a plus autant d'argent que les années passées. Et puis, il faut faire des investissements dans l'éducation et dans la santé. Donc, le gouvernement ne veut plus se permettre de brader, d'offrir de l'argent à tous ceux qui tirent une fois dans l'air. Donc, il faut expliquer les choses avec fermeté et s'assurer que les démobilisés qui devaient bénéficier du DDR ont vraiment bénéficié de ça. Et puis trouver des problèmes à la question du chômage de façon générale à tous les jeunes Ivoiriens, y compris les démobilisés, voire au-delà.
Mais tout ceci n'est pas révélateur d'un malaise au niveau de l'armée ?
Si, il y a forcément un malaise parce que ces démobilisés ont forcément des connexions avec des anciens mutins. Et certaines sources même disent que ce sont des anciens mutins qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas reçu tout ce que leur a promis le gouvernement qui essaie de manipuler ces démobilisés-là. C'est-à-dire que ça montre un certain malaise, certains problèmes de cohésion dans l'armée ivoirienne aujourd'hui, quand on remarque depuis le début de l'année, entre d'une part les soldats issus des forces armées, des forces nouvelles, ont du mal à s'inscrire dans une logique de soldats républicains.
Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a reçu hier soir à Abuja les 82 jeunes filles lycéennes de Chibok enlevées il y a 3 ans dans le nord du Nigeria. Elles ont été libérées samedi par Boko Haram. Le reportage de Zlatika Oké, présenté par Morgan Guirec.
Les 82 jeunes filles ont retrouvé la liberté samedi à l'issue de longues négociations qui ont débouché sur un échange contre des détenus membres présumés de Boko Haram. Elles ont d'abord été escortées vers une base militaire de Banki, près de la frontière avec le Cameroun, puis transportées à Abuja après un examen médical. Le président Buhari a retardé un voyage à Londres pour des raisons médicales afin de les accueillir. Au nom de tous les Nigérians, je voudrais partager ma joie avec vous, vos parents, vos proches, vos amis et le gouvernement de l'État de Borno de vous voir enfin libres, a déclaré le président Buhari via Facebook. Une des filles avait un bras cassé et une autre était blessée à la jambe. Elles avaient l'air épuisées. Leur vie en captivité a été pleine de souffrances. Elles ont été affamées, maltraitées. Comme nous l'avons déjà vu, certaines de ces filles sont revenues avec des enfants. Et certaines témoignent des violences sexuelles dont elles ont été victimes. Au total, 276 jeunes filles ont été kidnappées en avril 2014 alors qu'elles dormaient dans une école de Chibok dans l'état de Borno. Leurs parents et des militants se sont mobilisés pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il augmente les efforts pour les retrouver. En octobre, une vingtaine d'entre elles avaient été libérées. Les 113 jeunes filles qui sont encore en captivité doivent être prises en compte. Il faut que la lutte continue. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'en avoir retrouvé 82. Au total, 106 ont été sauvés et nous continuerons à exiger qu'elles soient toutes ramenées à la maison. Environ 15 000 personnes ont été tuées pendant l'insurrection de Boko Haram, qui veut créer un califat islamiste dans le nord-est du pays. Plus de 2 millions de personnes ont fui les violences en 7 années de conflit.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Algérie a chaleureusement accueilli l'élection d'Emmanuel Macron en France. Lors de sa campagne, le candidat du mouvement En Marche, alors en déplacement en Algérie, avait publiquement condamné la colonisation. Emmanuel Macron avait assuré qu'il prendrait des actes forts au sujet de la reconnaissance des massacres de l'Est algérien le 8 mai 1945. Pour réaction, Claire Morin-Gibour a joint le correspondant de VOA Afrique à Alger, Brahim Takambout.
La presse algérienne a été très positive en apprenant la nouvelle de l'élection d'Emmanuel Macron. Elle en a fait, comme on dit dans le jargon journalistique, ses choux gras, parce que c'est important pour les Algériens. Donc ils ont restitué un peu cette satisfaction des Algériens par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc globalement, toute la presse algérienne en a fait état.
Au niveau politique également, quelles ont été les réactions? Le président Bouteflika l'a déjà félicité.
Effectivement, au plan politique, le président de la République l'a déjà félicité. Il a même esquissé un peu ce que seront les relations entre Alger et Paris, évoquant le partenariat d'exception entre les deux pays, en parlant d'ouverture de nouveaux horizons et des promesses d'une mémoire assumée dans toute sa vérité et son intégrité, d'une amitié entre les deux peuples. Vous savez, entre l'Algérie et la France, il y a quand même une communauté très très forte, dépassant les 3 millions. Donc le président Bouteflika, dans son message de félicitations au président, au nouveau président français, il a parlé de cette de la mémoire, des relations apaisées, d'un avenir prometteur, et de cette communauté qui est, pour le président algérien, un ressort humain précieux à honorer et à préserver. Voilà, donc il a effectivement très, très chaleureusement félicité.
Alors il faut dire que Emmanuel Macron n'a pas été un candidat comme les autres, puisqu'il s'est prononcé sur les crimes de la colonisation.
Il n'est pas comme les autres, effectivement, parce qu'il est venu en Algérie, là, à, en quelque sorte, décomplexer la question de la mémoire. Disons clairement que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Effectivement, les Algériens attendent ce geste, mais Emmanuel Macron s'est débarrassé du boulet de la mémoire. Vous savez, entre Alger et Paris, toutes les analyses, toutes les démarches, elles ne sont pas torpillées, elles sont souvent polluées du fait qu'elles soient regardées par le prisme de la mémoire. Et donc, lui, ce qu'il annonce comme démarche, c'est que les choses vont aller autrement. C'est-à-dire que son passion, son ressentiment, c'est qu'on va voir les dossiers de manière apaisée et sereine. Et c'est ce qui est important. Quand il y a du recul, il y a une vision sereine, une vision apaisée, pas passionnelle. Et c'est plus intéressant, c'est plus important. Et je pense que c'est ce qui importe le plus, aussi bien pour les Algériens que pour les Français.
Brahim Takeroub, correspondant de VOA Afrique à Alger. La province du Nord Kivu produit chaque année 1 million de tonnes de cassitérite, soit 80 à 90 000 tonnes par mois. Pour moderniser et doubler la production, le gouvernement congolais veut industrialiser le secteur dans différents sites miniers déjà certifiés, non liés aux conflits armés. Malheureusement, cette mutation vers l'industrie laisse sur le carreau rue de 10 000 creuseurs artisanaux qui travaillaient sur ces sites miniers depuis plusieurs années à l'ouest de Goma. Un reportage de Charlie Kasereka.
Pour M. Hamza Tinema, l'un des responsables d'une coopérative regroupant plus de 18 000 creuseurs artisanaux, s'inquiète de la situation actuelle de ces jeunes qui n'ont plus d'occupation et a laissé la place depuis octobre 2014 à la société sud-africaine Alphamine, agréée par l'État congolais pour explorer et exploiter plus de 10 sites miniers à Walikale. La société Alphamine, indexée par ses creuseurs artisanaux de Walikale, son directeur général, M. Richard Robinson, balaye d'un revers de la main toutes ces accusations, ajoutant d'ailleurs que plus de 60 millions de dollars ont été dépensés par sa société pour les salaires de certains de ses anciens artisanaux qui travaillent aujourd'hui avec lui.
Ce n'est pas correct. La société n'a jamais proposé ou demandé le déguerpissement des creuseurs. Même depuis 2010, les coopératives se sont engagées de quitter la concession au moment de l'émission de notre permis d'exploitation. Mais il y a un effort de trouver des solutions.
La coexistence entre une exploitation artisanale et industrielle n'est pas autorisée par la loi congolaise à la matière, précise Anselme Kita, qui est ministre provincial des Mines.
L'État a donné un permis d'exploitation et donc il a donné des droits miniers à la société ABM, Alphamine Bissier. Les creuseurs ne devraient pas coexister sur ce site-là. Il faut qu'on le précise parce que la loi le prévoit.
Sur place à Walikale, les creuseurs artisanaux et les exploitants industriels se regardent en chaîne défaillance depuis octobre 2014, chose qui inquiète la société civile de la région. Prince Kiangi est un membre du groupe thématique des mines au sein de la société civile au Nord Kivu.
Ce sont des milliers de gens. Et demander d'un coup à tous ces gens de quitter et d'aller je ne sais où, c'est vrai que la société a un permis d'exploitation aujourd'hui. C'est vrai, ce sont des zones qui produisent énormément des quantités de minerais, mais la situation des communautés est restée la même.
Le ministre des Mines se félicite aujourd'hui en termes des recettes qu'il régénère après l'avènement de la loi Dodd-Frank exigeant la traçabilité pour tous les acheteurs et vendeurs des mines.
Ces 5 dernières années, s'agissant des dernières statistiques pour ce qui est du coltan, au bout de l'année, nous avoisinons à peu près 1 million de tonnes que nous exportons.
Dans les zones d'exploitation, beaucoup reste encore à faire. Des territoires entiers restent sous-développés et très enclavés par manque de route. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Sois reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux. Ils sont des jardiniers qui font fleurir ton âme. La mise en onde était assurée par Lemix Lumami, à la console Zuber, la présentation Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.
Le monde aujourd'hui. diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.